VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. Le pape François s'est envolé aujourd'hui pour le Mozambique dans le cadre d'un voyage de 7 jours dans l'océan Indien. Voyage qui le conduira aussi à Madagascar, deux des pays les plus pauvres du monde, où le souverain pontife entend plaider pour la paix et la justice sociale. Le souverain pontife doit conclure sa deuxième tournée sur le continent africain dans l'île touristique de Maurice. En Afrique du Sud, 5 personnes ont été tuées dans les violences xénophobes qui secouent le pays depuis dimanche. Ces attaques et pillages ont été jugés totalement inacceptables par le président Cyril Ramaphosa et Kiabadou.
Après 3 jours de violence, la police a tiré hier des balles en caoutchouc pour empêcher de nouveaux pillages à Johannesburg. Les violences ont débuté dimanche dans cette ville après la mort de 3 personnes dans l'incendie d'un bâtiment. Des centaines de magasins tenus par des étrangers ont été saccagés ou incendiés dans plusieurs quartiers de Johannesburg et Pretoria, la capitale. Dans la province du KwaZulu-Natal, des camions conduits par des étrangers ont été incendiés. D'après la police, plus de 189 personnes ont été arrêtées. Le président Cyril Ramaphosa a rompu le silence hier, disant que ces attaques visant des commerçants étrangers sont totalement inacceptables. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dénoncé des attaques abjectes. De son côté, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est dit très inquiet de ces attaques contre les immigrés africains, notamment ceux venus du Nigeria, et a envoyé un émissaire spécial en Afrique du Sud.
Plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté mardi à Alger contre la tenue d'une élection présidentielle réclamée la veille par le chef d'état-major de l'armée algérienne. Pas de vote, ont scandé les étudiants accompagnés d'enseignants et de simples citoyens pour cette manifestation qui se tient pour la 28e semaine consécutive. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah et le premier ministre Noureddine Bédoui doivent dégager, ont-ils martelé, dans les rues d'Alger. RDC, premier oral du chef du gouvernement devant les députés nationaux, Sylvestre Lunga a présenté mardi le programme de son gouvernement pour en solliciter l'investiture. 7 mois après l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, un programme qui repose sur 15 piliers, mais qui est boudé par les députés de l'opposition, qui ont d'ailleurs quitté la plénière en signe de protestation. Compte rendu, Thierry Kabondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Devant 352 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale et des partisans des partis de la majorité parlementaire, le Premier ministre a détaillé son programme qu'il décline en 15 axes. La pacification du pays, la promotion de l'état de droit et de la démocratie, la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la pauvreté en RDC sont entre autres les piliers qui fondent l'action de Sylvestre Ilunga. Le chef du gouvernement est aussi revenu sur la finalisation du processus électoral et a annoncé le rapatriement prochain des dépouilles de l'ancien président Mobutu et de l'ancien Premier ministre Moïse Tshombe. Il s'en est suivi critiques, questions et recommandations des députés nationaux. Étape qui a vu les députés de l'opposition quitter la salle. Ils ont fustigé le fait que le document qui a été présenté par le Premier ministre ne soit pas celui qui était distribué préalablement aux députés nationaux. Ils n'assisteront donc pas à l'investiture du gouvernement qui devrait intervenir ce jeudi au terme des réponses du Premier ministre aux nombreuses questions et interventions des députés de sa famille politique. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Mali, 4 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement d'un immeuble d'habitation ayant fait 15 morts dimanche à Bamako. Le propriétaire de l'immeuble et 2 élus locaux figurent parmi les personnes interpellées. L'identité de la quatrième n'a pas été révélée. Les secouristes ont pu extraire des décombres, 16 personnes en vie, mais 15 sont décédées dans le sinistre, selon le dernier bilan établi dimanche soir par le ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile. Et toujours au Mali, 14 passagers d'un autocar ont été tués mardi dans le centre du pays lors de l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule dans une région où le groupe djihadiste reste actif malgré plus de 6 ans d'intervention militaire internationale. L'autocar effectuait la liaison entre Douenza et Gao, plus grande ville du nord du Mali. 7h05 à Washington, l'actualité internationale. Le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé aujourd'hui vouloir donner une nouvelle impulsion à la coopération avec la Russie lors de discussions avec Vladimir Poutine à Vladivostok. C'est un extrême orient russe dominé par les questions économiques. Face à son homologue russe, M. Modi a dit vouloir saisir une possibilité historique pour renforcer les liens commerciaux et stimuler les investissements entre les deux pays. Pour Vladimir Poutine, il s'agit d'une occasion de confirmer qu'il peut trouver des partenaires au-delà des pays occidentaux avec qui les relations sont toujours au plus bas. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a perdu hier la majorité absolue au Parlement. C'est à la suite de la défection d'un député au moment même où il tentait d'imposer sa stratégie du Brexit à un Parlement en ébullition. Les députés de l'opposition et des rebelles conservateurs hostiles à un Brexit dur le 31 octobre veulent empêcher la sortie de l'Union européenne sans accord. Eric Manirakiza a joint à Londres le correspondant du service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique, Venuste Nchimiyimana.
Vous savez, Boris Johnson ne possédait qu'une majorité active et d'un siège au Parlement. Il n'a pas seulement perdu sa majorité, car une vingtaine de députés conservateurs se sont ralliés à l'opposition. Il a aussi essuyé un revers cinglant, car par 328 voix pour et 301 voix contre, les députés se sont prononcés pour la motion visant un report de la date du Brexit au-delà du 31 janvier 2020. Et Boris Johnson a immédiatement annoncé qu'il déposerait dès ce mercredi une motion pour des élections anticipées. Et la motion devra être débattue au Parlement et ce n'est pas gagné d'avance car la motion doit réunir 2/3 des voix pour être adoptée. Et si la motion est rejetée, il pourra toujours s'adresser à la Chambre des Lords.
Le Royaume-Uni vit une situation inédite, n'est-ce pas? Le pays est très divisé. Mais Boris Johnson sera la dernière carte des élections anticipées. Jeremy Corbyn ne s'y oppose pas. N'est-ce pas un couteau à double tranchant?
Il veut amener le dirigeant de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn à aller aux urnes car Boris espère les gagner. Il faut rappeler que le Premier ministre n'a plus de majorité au Parlement et il cherche une sorte de légitimité s'il gagne ces élections qu'il souhaite convoquer pour le 14 octobre. Il sait bien que 3 jours plus tard, le 17 octobre, est prévue à Bruxelles une réunion cruciale avec l'Union européenne et c'est donc celui qui sortira vainqueur des élections, qui pourra négocier un accord de Brexit avec Bruxelles? Et à la question de savoir si le pays est divisé, je dirais que oui. Il est divisé entre ceux qui veulent quitter l'Union européenne sans accord, ceux qui veulent un accord et ceux qui veulent tout simplement rester dans l'Union.
Et comment Jeremy Corbyn a réussi ce ralliement anti-Boris?
Eh bien, Jeremy Corbyn a compris qu'il fallait rassembler pour gagner. C'est ainsi qu'il a réuni la semaine passée des dirigeants de tous les partis politiques d'opposition et des représentants des députés conservateurs opposés au Brexit. Et ensemble, ils ont convenu d'une stratégie commune contre le Brexit sans accord. Et Corbyn a très vite compris qu'il ne faut pas tomber, comme le lui conseillait Tony Blair, l'ancien Premier ministre travailliste, qu'il ne faut donc pas tomber dans le piège à éléphant dans lequel le pousse Boris Johnson pour qu'il accepte d'aller aux élections. Jeremy Corbyn veut d'abord que le projet de Brexit sans accord ne soit pas à l'ordre du jour avant de parler d'élections.
Venuste Nchimiyimana, journaliste à Londres. Et Téhéran a indiqué aujourd'hui être prête à revenir à une mise en œuvre totale de l'accord sur le nucléaire iranien. Cela en échange d'une ligne de crédit d'environ 15 milliards de dollars. Actuellement négocié avec les Européens, l'Iran a commencé à se désengager de certains de ses engagements pris à Vienne et menace de se délier encore un peu plus de l'accord à partir du 7 septembre. Et puis l'ouragan Dorian, ici aux États-Unis, rétrogradé en catégorie 2, fait route vers les États-Unis après avoir dévasté l'archipel des Bahamas et provoqué la mort de 7 personnes, un bilan qui devrait encore s'alourdir, a averti le Premier ministre des Bahamas. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.